Vous écoutez bien RFI, il est 9h à Port-au-Prince. RFI midi suite et fin sur le continent américain jusqu'à 13h30 temps universel. Reportage à suivre à Port-au-Prince. Notre correspondante a pu rencontrer des acteurs d'un système de santé complètement à terre à cause de la violence des gangs. Cette violence, on en parlera aussi avec notre confrère du journal Le Nouvelliste, Franz Duval, que nous rejoindrons dans quelques minutes. On reviendra aussi sur ces accusations contre des pratiques du groupe Zara et H&M dans le Cerrado au Brésil, accusations de déforestation via leurs sous-traitants. Et puis, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de la Guyane où l'auteur supposé du meurtre d'une jeune pharmacienne a passé sa première nuit en prison.
Il s'agit d'un sans domicile fixe très défavorablement connu des services de police. Il aurait poignardé la pharmacienne pour lui dérober son téléphone portable.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Et d'abord, on fait le point sur les dernières informations, l'actualité des dernières heures. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Joe Biden déroule le tapis rouge pour ses homologues japonais et philippins.
Oui, les dirigeants des deux grands alliés des États-Unis en Asie sont reçus aujourd'hui à la Maison-Blanche. Il sera beaucoup question de coopération maritime en mer de Chine méridionale, une coopération trilatérale appelée à être renforcée. Cette rencontre au sommet, première du genre, risque fort de provoquer l'ire de Pékin. Yelena Tomic.
En réunissant à Washington le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président philippin Ferdinand Marcos Jr., Joe Biden poursuit sa stratégie de renforcement de la coopération militaire. Objectif, rassurer ses alliés et contrecarrer les ambitions de Pékin en Asie-Pacifique, dans un contexte de tension accrue en mer de Chine méridionale. Une zone de très haute tension où un conflit entre les États-Unis et la Chine n'est pas à exclure, estiment des experts. Avec la multiplication des escarmouches entre Manille et Pékin autour des îlots contestés, des Spratly, les Philippines souhaitent développer des patrouilles navales conjointes avec les États-Unis et le Japon. Une annonce en ce sens devrait intervenir à l'issue du sommet. Une certitude cependant, Joe Biden insistera sur la liberté de naviguer dans cet espace contesté, un thème central déjà évoqué lors d'un précédent sommet trilatéral l'an dernier avec le Japon et la Corée du Sud. Côté japonais, la mer de Chine méridionale constitue un espace vital pour son approvisionnement, d'où ses attentes énormes de ce sommet. Tokyo est devenu, sous l'impulsion de Washington, un acteur militaire majeur et un point d'ancrage de diverses alliances et partenariats régionaux des États-Unis.
C'était Yelena Tomic. En Corée du Sud, l'opposition de centre-gauche est sortie grand vainqueur des élections législatives. Le scrutin d'hier avait pris des allures de référendum pour ou contre le président Yoon. Les électeurs se sont déplacés en nombre. Ils ont sanctionné le parti conservateur du chef de l'État qui sauve un peu plus d'un tiers des sièges au Parlement. Le gouvernement argentin de Javier Milei est de plus en plus critiqué pour son inaction face à une épidémie de dengue, la pire que l'Argentine n'ait jamais connue. Depuis le début de l'année, plus de 230 000 personnes ont été infectées et 161 ont succombé à cette maladie transmise par les moustiques. La situation est d'autant plus préoccupante que l'Argentine fait face à une pénurie de répulsifs anti-moustiques. Reportage à Buenos Aires de Théo Conscience.
Sur la porte vitrée de cette pharmacie du centre de Buenos Aires, une pancarte annonce la couleur en lettres capitales. Il n'y a pas de répulsifs anti-moustiques.
Nous n'en avons pas. Il n'y a aucun moyen de s'en procurer. Nous travaillons avec trois fournisseurs et aucun des trois n'en a depuis plus d'un mois.
Eloy Garnica est le gérant de cette pharmacie. Il s'indigne de la passivité du gouvernement face à l'actuelle épidémie de dengue et de l'absence de campagne de prévention.
On n'a aucune information. L'autre jour, j'ai écouté le ministre de la Santé et j'ai eu honte de ce que j'ai entendu.
La semaine dernière, le ministre de la Santé s'est limité à suggérer aux Argentins d'éviter les shorts et les manches courtes pour se protéger des moustiques. Le gouvernement a également levé les taxes sur l'importation de répulsifs afin de résoudre la pénurie. Mais pour Sarah, qui fait le tour des commerces pour en trouver, ce n'est pas suffisant.
Pour moi, l'État devrait être plus présent. Les hôpitaux sont saturés. Tu vas aux urgences, on te fait attendre 5 heures et on te renvoie chez toi. Le gouvernement ne fait rien. On dirait qu'il s'en fiche.
Le gouvernement se refuse également à intégrer à la stratégie de vaccination nationale le sérum du laboratoire Takeda, pourtant approuvé par l'autorité sanitaire et utilisé par le voisin brésilien. Face au vide laissé par l'État, certaines provinces argentines se sont néanmoins procurées des doses et ont commencé à les distribuer gratuitement. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Ce sont deux des grands géants mondiaux du textile et aussi des champions présumés de la déforestation. Les marques Zara et H&M sont épinglées pour leur coton cultivé sur les terres déforestées au Brésil. L'enquête d'une ONG britannique alerte en particulier sur la situation dans la région brésilienne du Cerrado, savane réputée pour la richesse de sa faune et de sa flore. La maison mère de Zara a réagi en affirmant qu'elle rejetait, je cite, des pratiques comme l'usurpation des terres et la déforestation.
Et on y reviendra plus longuement dans quelques minutes avec le service environnement de RFI. Mais pour l'heure, votre journal se poursuit. Gilles Moreau, 15h05 à Paris. En France, le président aujourd'hui dans le sud-ouest, dans la ville de Bergerac.
Oui, le président Macron visite le site d'Erenco, leader européen des poudres explosives. Dans un contexte de guerre en Ukraine, le chef de l'État demande aux entreprises françaises du secteur d'augmenter leur production. Reportage à Bergerac de Charlotte Urien-Tomaca.
Comme un symbole, Emmanuel Macron a posé la première pierre d'une nouvelle ligne de production de cette usine de poudre, car le site était quasiment à l'arrêt depuis la fin de la guerre froide. Cette nouvelle unité de production va transformer la société Urenco, 200 salariés au début de la guerre en Ukraine, à 450 l'année prochaine, le tout pour satisfaire un carnet de commandes qui est déjà plein à craquer. Le site de Bergerac va multiplier par 10 sa production de poudre de gros calibre, c'est donc l'exemple parfait de ce qu'Emmanuel Macron appelle l'économie de guerre. Mais un passage qui se fait au moment où les finances du pays sont dans le rouge, mais le chef de l'État fait un calcul très simple. Urenco est un modèle du genre, plus d'emplois, une économie locale relancée et donc un bon moyen de sortir de l'ornière budgétaire. L'usine de Bergerac est détenue à 100% par l'État, mais à l'heure où toutes les administrations et ministères sont appelés à faire des efforts, quel sera le poids de la commande publique ? L'Élysée assure en tout cas qu'il n'est pas question de toucher au budget des armées. D'ailleurs, le ministre de l'économie est ici avec le chef de l'État, Bruno Le Maire, qui agace en ce moment le président de la République. Le chef de l'État lui reproche d'être trop alarmiste sur l'état des finances du pays. Les deux hommes ont en tout cas pris le même avion pour venir ici. Peut-être une mise en scène d'une opération rabibochage.
Charlotte Urien-Tomaca à Bergerac, dans le sud-ouest de la France, pour RFI. Et alors qu'Emmanuel Macron demande d'augmenter l'effort de guerre, l'Ukraine adopte une loi pour mobiliser plus d'hommes afin de faire face aux assauts de la Russie. Loi controversée, elle accroît notamment les sanctions pour les réfractaires. Le président Volodymyr Zelensky est depuis ce matin en déplacement en Lituanie et un accord décennal a été conclu avec cette fois la Lettonie sur le soutien militaire à Kiev. Retour en France où l'Agence nationale de sécurité du médicament prévient que le tramadol continue de faire l'objet d'usages abusifs. Le tramadol, le principal traitement de la famille des opioïdes, ces derniers sont généralement utilisés comme antidouleur, mais il présente un risque élevé de dépendance avec un important risque pour la santé. Dans son communiqué, l'Agence du médicament parle d'abus et de dépendance dans des contextes de mésusage ou d'usage détourné. Le 77e Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai. On connaît maintenant le programme officiel. À retenir, le retour de Francis Ford Coppola. À 85 ans, le grand cinéaste américain sera en compétition avec son film Megalopolis. 45 ans après sa deuxième Palme d'Or, obtenue en 1979 pour Apocalypse Now. Parmi les autres cinéastes qui viendront présenter leur nouveau film, des habitués de la croisette, Jacques Audiard, David Cronenberg, Paul Schrader ou bien encore Kirill Serebrennikov, le cinéaste russe en exil. Un mot de football. Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. Côté français, l'Olympique de Marseille se déplace au Portugal. L'OM joue contre le Benfica Lisbonne en quart de finale. Allez. Enfin, statu quo monétaire en Europe. La Banque Centrale Européenne a décidé pour la cinquième fois consécutive de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels. Une décision, Anne, largement attendue avant une possible baisse des taux en juin.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure. RFI Midi, dernière partie. Nous sommes ensemble pour une demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti donc, pour débuter, les violences, les pillages, les destructions dont nous vous parlons quasiment tous les jours n'épargnent pas les infrastructures sanitaires. Des images ont montré récemment des pharmacies dévastées, les hôpitaux sont régulièrement ciblés par les groupes criminels et de nombreux centres de santé sont aujourd'hui fermés. La situation est catastrophique. C'est notre dossier du jour, signé de Port-au-Prince par notre correspondante Marie-Andrée Bélange.
À Port-au-Prince, la plupart des officines gardent aujourd'hui porte close. Prise pour cible par les bandits, il n'est plus question d'ouvrir pour leurs propriétaires, comme Raymond qui tenait trois pharmacies dans la zone.
Les bandits ne pouvaient pas ouvrir la porte, alors ils ont creusé un trou pour pénétrer dans le bâtiment. J'avais rangé les médicaments sur une étagère, mais malheureusement, ils ont vandalisé mes trois pharmacies.
Vandalisé et incendié aussi, explique Raymond qui ne s'attendait pas à cette situation.
Cela m'a totalement dévasté. Il y a des propriétaires qui ne peuvent pas retenir leurs larmes. Je ne sais pas comment expliquer ce que nous sommes en train de vivre, nous propriétaires d'officines. Cela représentait beaucoup pour de nombreuses familles. Ces pertes vont sans doute augmenter le taux de chômage. Beaucoup de gens auront également des difficultés pour subvenir à leurs besoins.
À 70 ans, Yoel réside dans la capitale. Elle doit prendre des médicaments tous les jours à cause de problèmes cardiaques. Habituellement, elle les achète dans les pharmacies qui se trouvent dans les parages de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti. Mais elle ne peut plus le faire. Et comme elle, de nombreux habitants de Port-au-Prince se retrouvent privés de leur traitement. Certains font appel à l'Association des pharmaciens d'Haïti. Pierre-Hugues Saint-Jean en est le président.
On reçoit beaucoup de demandes, des gens qui nous disent de leur indiquer où ils peuvent trouver certains médicaments. Lorsqu'ils nous contactent, on fait le suivi à travers l'association et les pharmaciens essaient de les orienter afin qu'ils puissent acheter des produits. Ces derniers temps, les demandes se sont intensifiées.
Ces jours-ci, le constat qu'on a fait, c'est que les demandes sont intensifiées.
Des médicaments qui se font rares ou des prix qui augmentent, c'est l'un des impacts des attaques des bandits armés, mais aussi de la fermeture des ports et des aéroports, car la majorité des médicaments proviennent de l'étranger, poursuit le pharmacien.
On a trois laboratoires dans le pays. L'un a cessé ses activités et les deux autres fonctionnent au ralenti. Donc ils ne peuvent pas mettre à temps des produits sur le marché. Cela crée une pression sur le secteur médical qui ne peut pas répondre aux besoins de la population.
À Port-au-Prince, les bandits armés se déchaînent contre presque toutes les institutions importantes. Pierre-Hugues Saint-Jean questionne les attaques contre les pharmacies notamment.
Aux pharmacies, aux cliniques, aux l'hôpital, c'est des structures de santé.
Et les pharmacies, les cliniques et les hôpitaux sont des structures de santé qui sont là pour aider les gens qui ont besoin de soins. Même les bandits qui pillent et mettent le feu peuvent avoir besoin de se faire soigner. Je ne vois pas pourquoi ils s'attaquent à ces structures. Je pense que ces attaques s'inscrivent dans un cadre général, car je ne pense pas que les pharmacies qui ont été vandalisées puis incendiées ont été ciblées.
Le système sanitaire haïtien, déjà défaillant, n'a pas la capacité de faire face à cette situation. Il est nécessaire de trouver une solution, selon le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti.
C'est tout secteur vraiment qui
tous les secteurs du pays se retrouvent dans une situation difficile, donc c'est aux Haïtiens de prendre des dispositions pour mettre Haïti sur la voie de la bonne gouvernance et de la stabilité. Cela permettra le bon fonctionnement de tous les secteurs du pays.
En attendant, les bandits armés continuent de semer la terreur dans des quartiers de Port-au-Prince et ses environs, empêchant la reprise des activités, notamment à l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, le plus grand centre hospitalier du pays, contraint de fermer à cause le déferlement de la violence armée. Marie-André Bélange, Port-au-Prince, RFI.
On entendait dans le reportage de notre correspondante à quel point le système de santé est touché par les violences, quasiment à terre. Il reste quelques rares hôpitaux publics encore ouverts dans la capitale haïtienne et on va en parler avec notre confrère. Bonjour Franz Duval.
Bonjour, bonjour.
Votre journal Le Nouvelliste publie aujourd'hui un reportage à l'hôpital universitaire La Paix, qui est un hôpital très sollicité.
Oui, c'est l'un des rares hôpitaux qui fonctionne encore dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, hôpital public. Il ne sont que deux et l'hôpital est dépassé, les capacités sont dépassées. C'est ce qu'a déclaré encore ce matin le directeur qui dirige ce centre hospitalier. Ils ont reçu du 29 février au 9 avril 194 blessés par balle. Et c'est énorme, cela dépasse l'entendement. D'autant plus que les facilités pour prendre soin de tous ces gens ne sont pas disponibles. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'intrants et souvent, les professionnels de santé ne peuvent pas venir travailler. C'est dans des conditions vraiment très difficiles que l'hôpital La Paix travaille, fonctionne et accueille encore les blessés.
Et les défis auxquels est confronté cet hôpital sont en fait une illustration de plus de la situation catastrophique que vit le pays. Le Nouvelliste écrit, en s'appuyant sur un bilan établi par une ONG haïtienne, que jamais une transition n'avait été aussi sanglante pour le peuple que celle dirigée par Ariel Henry, le Premier ministre démissionnaire.
Tout à fait. La période est terrible. Ça fait des morts par milliers chaque année. Et de janvier à mars, on a déjà relevé plus de 208 personnes qui ont été tuées. Mais c'est un bilan très partiel parce qu'en réalité, personne ne peut faire un bilan complet de ce qui se passe en Haïti. Il y a eu des jours pendant le mois de, au début de mars où quasiment aucune organisation ne pouvait aller faire un bilan sur place. Beaucoup de cadavres ont été brûlés et il n'y a pas un vrai bilan, mais la transition est très sanglante et cela continue, cela ne s'arrête pas. Il y a encore des blessés par balle et des morts qu'on décompte chaque jour dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il faut dire aussi qu'on n'a pas même un bilan des prisons qui ont été vidées des prisonniers et l'administration pénitentiaire n'a pas donné les chiffres, on ne sait pas. En réalité, la vraie statistique ces jours-ci en Haïti, c'est on ne sait pas. C'est on ne sait pas.
Et dans ce contexte d'incertitude immense, Franz, vous vous posez une question dans votre éditorial. Qui veut encore de la mission multinationale de soutien à la sécurité?
Le Nouvelliste a essayé de faire un bilan. D'abord, la situation avec le Kenya. Il faut dire que depuis que le Premier ministre Ariel Henry a été au Kenya et a signé l'accord qui permettait le déploiement des troupes kenyanes, rien ne s'est passé. Le Kenya s'est même rétracté, disant qu'il faut une nouvelle mission d'évaluation pour savoir qu'est-ce qui serait bon pour cette mission. Trinidad et Tobago a dit qu'il n'enverra plus de soldats, plus de policiers. Les États-Unis sont toujours dans les possibilités de trouver de l'argent pour financer la mission. Et aujourd'hui, le Conseil présidentiel qui a signé un accord politique où il est écrit clairement que la mission quasiment n'existe plus. Haïti va créer un Conseil national de sécurité et selon l'accord politique qui doit donner naissance au Conseil présidentiel, c'est ce Conseil national de sécurité qui aura à définir et à convenir avec les Nations unies de ce qui serait bon pour Haïti. Dans l'accord politique, on ne parle même plus de la mission multilatérale d'appui à la sécurité. Et il faut dire que nous sommes dans un trou noir en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne qu'est-ce qui sera fait dans les jours à venir. Les Américains continuent encore de parler de la mission, mais du côté des Haïtiens, du côté du nouveau pouvoir qui va s'installer bientôt, on est déjà passé à autre chose.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste en Haïti. On vous retrouvera jeudi prochain, comme chaque semaine. Et d'ici là, on va se plonger dans un autre journal, le site Ayibo Post, qui lui se penche sur les difficultés de la police. La PNH démunie jusque dans ses communications radio. Le média nous apprend à Blajounaïdi que les messages des policiers sont interceptés par les gangs.
Oui, le média a interrogé plusieurs agents qui ont requis l'anonymat pour pouvoir s'exprimer. Selon ses sources, des gangs ainsi que d'autres acteurs en possession de matériel adéquat écoutent régulièrement les communications radio de la police nationale. Une menace grave pour l'intégrité des opérations, rapporte Ayibo Post. C'est vrai que dans certains pays, les forces de l'ordre font usage d'appareils de communication encryptés dont le signal ne peut pas être capté facilement, rappellent nos confrères. A l'inverse, les membres des gangs, eux, sont de mieux en mieux équipés, d'après des spécialistes interviewés par le média. Ils manient en plus habilement la communication sur les réseaux sociaux. Or, c'est important pour la police de le faire aussi afin de projeter de la confiance et donner une impression d'infaillibilité, souligne un expert interrogé. L'enquête est à lire en intégralité sur ayibopost.com.
Abla Jounaïdi, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de votre revue de presse, mais d'abord, on va parler du Brésil.
Rádio França Internacional.
Et de ce scandale révélé hier, les deux principaux vendeurs de vêtements au monde, les marques Zara et H&M, épinglés pour leur utilisation de coton cultivé sur des terres déforestées au Brésil, pays qui ambitionne de devenir le premier producteur mondial devant les États-Unis d'ici à 2030. Au prix d'une destruction environnementale massive. C'est le résultat d'une enquête de l'ONG britannique EarthSight. Cette fois, Jeanne Richard, les ravages ne concernent pas la forêt amazonienne, comme on aurait pu l'imaginer, mais le Cerrado.
Oui, une autre région souffre de la déforestation au Brésil, la savane arborée du Cerrado, qui couvre près d'un quart de la surface du pays et qui abrite des espèces rares, comme le tamanoir ou le tatou géant. Après un an d'investigation, l'ONG EarthSight a en effet pu retracer le parcours de plus de 800 000 tonnes de coton, depuis les exploitations du Cerrado jusqu'à 8 fabricants de vêtements en Asie, qui ont produit près de 170 millions de vêtements pour H&M ou Zara et ses filiales Bershka ou Pull&Bear.
Coton censé être certifié par le label durable Better Cotton.
Oui, mais pourtant, pour le cultiver, près de 100 000 hectares ont été détruits, les populations locales chassées et les terres largement accaparées par des géants de l'agrobusiness brésilien, selon l'ONG. En témoigne cet enregistrement de Lossoné Lopez, un éleveur local qui a pu filmer avec son téléphone une altercation avec les gardes d'une des compagnies agricoles qui sont arrivés un beau jour et qui ont installé des barrières sur une parcelle sans explication. Quand il a voulu faire venir paître ses bœufs, il a été chassé.
Então chama ele! Chama ele! Chama ele!
Donc vous l'entendez, il a fini par se faire tirer dessus. Il n'a heureusement été touché qu'à la jambe. Marcos Regiero dos Santos est militant écologiste brésilien. Il témoigne aussi de cette violence.
Le coton s'exporte au prix du sang, de la souffrance, de la sueur, des traumatismes. Le traumatisme de perdre un père, un être cher, quelqu'un de sa famille ou de se faire arrêter. Nous devons comprendre que nous habitons tous la même terre et il n'y en a qu'une. S'il y a de la déforestation ici, les conséquences se feront sentir en Europe, ici aussi, partout. Il n'y a pas de plan B pour l'humanité. Soit on préserve notre planète, soit l'humanité mourra.
L'ONG rappelle que la situation s'aggrave. La déforestation a augmenté de 43% l'année dernière dans le Cerrado, quasiment entièrement de manière illégale. Tout ça pour assouvir la surconsommation d'une mode éphémère dans les pays riches.
Merci Jeanne Richard. Inditex, la maison mère de Zara, a dit tout à l'heure prendre ces accusations très au sérieux.
RFI. The world's voices.
La suite de votre revue de presse, Abla Jounaidi, on va parler d'un phénomène qu'on appelle le gerrymandering aux États-Unis. C'est le redécoupage d'une circonscription pour favoriser son parti ou toute autre manipulation, manigance pour écarter des électeurs qui ne vous sont pas favorables a priori. À Miami, un juge a donné raison à des citoyens noirs qui s'estimaient lésés par la ville.
Oui, on ne parle pas ici des élections générales de novembre, mais bien de scrutins locaux, Anne. Pour le juge de la Cour fédérale de district de Miami, K. Michael Moore, la ville a utilisé le redécoupage de 1997 à 2022 pour dessiner 5 districts municipaux avec l'intention explicite de faire élire par les électeurs 3 conseillers hispaniques, un noir et un blanc non hispanique, relate le New York Times. Même si les édiles n'ont pas nécessairement agi par malveillance, a reconnu le juge, mais pour assurer une représentation multiraciale de la ville, ils ont quand même privé les habitants de la promesse constitutionnelle qu'ils bénéficient d'une égale protection de la loi, rapporte le Miami Herald. La population de Miami, c'est 450 000 habitants, à trois quarts hispaniques, 14% noirs et 12% blancs non hispaniques, rappelle le New York Times. Pour l'heure, la ville n'a pas le droit d'organiser de scrutin municipal l'an prochain dans les districts jugés inconstitutionnels, précise le Miami Herald. La décision relance le débat sur la manière de redessiner la carte électorale pour être représentatif sans être discriminatoire. Sur ces questions, des négociations se poursuivent entre les élus et les plaignants des organisations représentatives de la minorité noire qui ont crié victoire ce mercredi, rapporte The Hill.
Ailleurs sur le continent, Abla, la presse se demande si Raïmé Saadé, l'assassin de la jeune Nancy Mestre, sera dans l'avion qui doit l'emmener du Brésil en Colombie aujourd'hui.
Oui, le cas ne vous dit sûrement rien, mais en Colombie, Anne, l'affaire avait fait grand bruit, nous rappelle La Razón. Le 1er janvier 1994, le fiancé de la jeune femme de 18 ans la violait, lui tirait une balle dans la tête avant de la laisser agoniser pendant des jours. Le visage angélique de Nancy Mestre est en une de plusieurs journaux colombiens, à côté de celui plus dur de Raïmé Saadé. Il arrivera à 11h30, heure de Bogota, dans un vol commercial provenant de Belo Horizonte, au Brésil, afin de finir de purger sa peine pour homicide dans son pays d'origine, a confirmé une source judiciaire au quotidien El Tiempo. C'est la fin d'une cavale de 29 ans où l'homme condamné par contumace en 1996 trompait son monde avec de faux papiers et un nouveau ménage au Brésil, jusqu'à son extradition, donc en application d'une notice rouge d'Interpol. Cas emblématique de féminicide impuni, le sort de Nancy Mestre a marqué les esprits, notamment à cause du combat médiatique de son père, Martine, 82 ans. L'homme a consacré des années à traquer le suspect, y compris en utilisant un faux compte Facebook pour se rapprocher de lui, détaille le journal El País. Marqué par des années de lutte, il attend patiemment quelques heures de plus à Barranquilla, l'arrivée de l'assassin de sa fille, précise El Tiempo.
Merci Abla Jounaidi pour votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. Il est 10h24 à Cayenne.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
En Guyane, l'auteur présumé du meurtre d'une jeune pharmacienne a passé sa première nuit en prison.
Déféré devant un juge d'instruction, il a été mis en examen pour meurtre aggravé et incarcéré. Et tout ça, semble-t-il, pour un téléphone portable. Olivier Damon.
L'auteur présumé du meurtre d'Hélène Sédou Tarsi est un sans domicile fixe né à Kourou qui vivait à Saint-Laurent-du-Maroni en décembre dernier. Il a fêté ses 34 ans, soit le même âge que sa victime, mortellement agressée ce lundi 8 avril devant le supermarché de la capitale de l'Ouest pour lui voler son téléphone portable pour le revendre, a-t-il indiqué aux enquêteurs. À ce stade, les médecins qui l'ont examiné n'ont pas décelé de troubles psychiatriques, mais une extrême dangerosité, notamment due à la consommation de stupéfiants avec de gros risques de récidive. C'est la raison pour laquelle le juge d'instruction et le parquet ont tous deux demandé son placement en détention. Il faut dire aussi que l'auteur présumé des faits présente un lourd casier judiciaire, 9 condamnations pour 4 à 5 incarcérations pour vol et violence aggravée. Le jour du drame, il avait une convocation au tribunal de Saint-Laurent-du-Maroni pour aménager une de ses peines. La suite, on la connaît. La justice a désormais 18 mois pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Olivier Damon, direction la Guadeloupe, avec près de 90 policiers, gendarmes, douaniers mobilisés hier pour une opération PlaceNet XXL dans le quartier Lorisisque, à l'ouest de Pointe-à-Pitre. Quartier connu pour être sensible, comme on dit, d'où très certainement l'appel au secours récemment lancé par le maire de Pointe-à-Pitre et donc cette opération spectaculaire hier, pilotée par la direction territoriale de la police. Écoutez le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, Jean-François Moniotte. Il est au micro d'Éric Stimfling.
C'est une volonté qui a été exprimée par le ministre de l'Intérieur, que le préfet a bien sûr appliqué depuis plusieurs semaines en Guadeloupe, c'est-à-dire un retour conforté, supplémentaire des forces de sécurité sur le terrain. Donc à travers ces opérations PlaceNet qui ont été judiciarisées d'autant plus. Donc on travaille en lien étroit avec les services et avec Madame la Procureure de la République. Et c'est grâce à ça qu'on a ces opérations-là sur le terrain qui permettent vraiment d'effectuer ces contrôles. Ce soir, on est sur une très grosse opération puisqu'on n'est pas loin de 90 effectifs qui sont présents ce soir pour ces opérations de contrôle. Et je remercie aussi les effectifs des douanes, de la police municipale et je tiens aussi à signaler qu'on a un peloton d'intervention de la gendarmerie nationale qui est avec nous. Donc c'est une belle opération PlaceNet qui sera renouvelée autant que de besoin puisque ces contrôles ont des résultats.
Jean-François Moniotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre, car en Guadeloupe, la préfecture, c'est Basse-Terre. Bon après-midi Anne, à demain.
Bon après-midi Benoît Ferrand et merci, à demain donc. On vous retrouvera dans notre rendez-vous, dans notre demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain tous les jours à 13h, temps universel. Tout de suite, de la musique pour nous amener à 13h30, temps universel. La musique du Belge Bolis Pupul, voici son morceau Maotai Road, issu de son nouvel album Letter to You. le Belge Bolis Pupul. Merci à tous d'avoir écouté RFI Midi. C'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation aujourd'hui, Vincent Biteau. On se retrouve demain à 11h, temps universel. Et d'ici là, vous ne bougez pas, tout de suite, de vive voix avec Chantal Leroux.